Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Pascal Masrika.
Les titres de l'actualité, 40 civils tués, nombreux grièvement blessés, des maisons incendiées, bilan de l'attaque des rebelles ougandais de l'ADF hier soir sur le village de Mukondi dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Les FARDC quant à elles parlent de 35 morts. Rentrée judiciaire de la Cour des comptes ce jeudi à Kinshasa en présence du président Félix Tshisekedi. Le premier président de cette juridiction, Jimmy Munganga, a mis l'accent sur le rôle de la Cour des comptes dans la répression des fautes de gestion. Notre invité, c'est le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Marc Carnassoro, affirme que la situation reste préoccupante dans la province, même si le niveau des violences a baissé. Il pense que l'impunité des auteurs des violences est l'une des causes de la poursuite des atrocités. Madame, messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, 40 civils ont été tués, nombreux autres grièvement blessés et des maisons incendiées cette nuit par des rebelles ougandais de l'ADF à Mukondi, un village de la chefferie de Bachou dans les territoires de Beni. Le porte-parole des opérations Sokola parle quant à lui de 35 morts. Le capitaine Anthony Mwalushai s'est confié à André Kitenge.
Il faut dire que les terroristes ADF MTM ont fait l'incursion dans ces villages de la chefferie des Bachou, tuant ainsi 35 de nos compatriotes avec machettes. Mais en fouillant, ils ont réussi à tirer en l'air pour alerter. Parce qu'à chaque fois quand ils exécutent, ils ne tirent pas. Parce qu'ils savent que les FARDC ne sont pas loin. C'est en fouillant qu'ils ont commencé à tirer pour distraire les gens, pour faire peur à la population de ne pas les suivre. Et les FARDC sont arrivés au moment où l'ennemi avait déjà pris l'arche. Nous avons enregistré ces bilans macabres de nos compatriotes et nous tenons à présenter sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Mais il faut dire que cette incursion se justifie par un coup dur enregistré par ces terroristes djihadistes dont la chefferie des Bachou. La population doit toujours rester vigilante, la population doit toujours accompagner son armée et l'armée doit toujours faire des patrouilles de combat partout pour que la paix revienne.
En réaction à cette préoccupation, le premier vice-président de la société civile fustige cette attaque survenue dans une zone où sont cantonnés des miliciens Maïmaï d'un groupe UPLC depuis plusieurs années en attente de leur désarmement et démobilisation. Edgar Matesso est au micro de Grévis Salomon.
C'est d'abord avec une grande surprise que nous apprenons que nos compatriotes de Mukondi ont été victimes d'une attaque criminelle des ADF. Notre inquiétude va dans le sens de constater que ce genre de faits sont observés régulièrement pendant que la tension du gouvernement congolais c'est plutôt vers Rutshuru. Et oublier que les ADF sont toujours actifs dans la zone en errance et continuent à faire du mal aux civils. Et nous ne sentons pas une grande mobilisation de l'armée, surtout dans cette zone. Bien sûr que la force de coalition FARDC-UPDF est en train de travailler. Mais il faut aussi noter que dans la zone où il y a eu des massacres et sous le contrôle d'une milice qui est déjà abandonnée là-bas, nous voudrions que dès maintenant, les autorités militaires puissent retirer la milice de l'UPLC basée à Kalunguta et mettre cette zone sous le contrôle de l'armée congolaise et continuer avec la traque de ZADEF.
Nord Kivu encore et en plus bref, une accalmie s'observe aujourd'hui jeudi sur les différentes lignes de front opposant les FARDC aux rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise autour de la Ruindi et la cité de Sake au sud-est du territoire de Masisi. C'est au lendemain des violents combats qui ont aggravé la situation humanitaire dans les deux zones. Revenons à Kinshasa où une importante délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est attendue dans la capitale congolaise jeudi sous la direction conjointe de la France et du Gabon, outre les représentants de 15 pays membres du dit Conseil de sécurité. Cette mission onusienne comprend des experts et des équipes de soutien du secrétariat général des Nations Unies ainsi que ceux du département de la sûreté et de la sécurité. Explication d'Alain Rung-Mouchinj.
La délégation du Conseil de sécurité prévoit plusieurs rencontres dans la capitale ainsi qu'à Goma. À Kinshasa, première étape de la visite, la délégation attend discuter ce vendredi 10 mars des questions électorales et sécuritaires avec les acteurs politiques, la société civile, les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre ainsi que le Président de la République. La délégation arrivera à Goma le samedi 11 mars. Elle aura une séance de travail avec le gouverneur militaire Constant Ndima avant d'échanger avec la force de la MONUSCO. Il est prévu aussi dans la capitale du Nord Kivu des réunions avec la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, les FRDC, et les membres du mécanisme de vérification ad hoc décidé par le processus de Luanda. Par ailleurs, d'autres rencontres sont prévues avec des représentants des groupes des femmes, de la société civile du Nord Kivu, ainsi que des déplacés internes.
Merci Alain Rangoumouchige pour ces précisions. L'insécurité refait surface à Kwamout dans la province de Maïndombe. 24 personnes ont été tuées en l'espace de 2 jours par des hommes armés dans 3 villages, dont Kinsele à la limite de la ville de Kinshasa et Minkao et Tobakita. Le député national Guy Moussomo, élu du coin, parle d'un bilan provisoire. Il plaide pour le renforcement urgent de la sécurité par des opérations militaires. À Bandunduville, Irène Mboma.
Selon le député national Guy Moussomo, c'est aux environs de 5h du matin de mercredi 8 mars que des hommes armés non autrement identifiés ont attaqué le village Kinsele situé sur la RN17 au territoire de Kwamout. Après les affrontements, le bilan provisoire fait état d'au moins 15 morts du côté des habitants. Toujours d'après lui, 8 autres personnes ont été tuées mardi au village Menko par les mêmes assaillants et un mort a été recensé à Tobakita à 12 km de Kinsele. Cet élu de Kwamout plaide pour le redéploiement de l'armée qui a été remplacée par la police dans cette partie du Maïndombe.
Malgré les assurances qu'on a données qu'il y a la calmie dans le territoire de Kwamout, il n'en est pas question. En une semaine, on a dénombré beaucoup de morts et plusieurs affrontements. Nous demandons que la sécurité puisse être renforcée. On a fait partir les militaires en les remplaçant par les policiers. Cette façon de faire a échoué.
La société civile de Kwamout qui confirme la reprise des affrontements dans ces territoires dresse un bilan provisoire d'au moins 26 morts en 2 jours, dont 11 à Tobakita et plus de 15 à Kinsele. Joint à ces sujets, le ministre provincial de l'Intérieur du Maïndombe, Barnabé Bopaka, promet de s'exprimer ultérieurement. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Dans l'actualité sur Radio Okapi, il y a également la rentrée judiciaire de la Cour des comptes ce jeudi au Palais du Peuple ici à Kinshasa en présence du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Le premier président de cette juridiction, Jimmy Munganga, a axé son discours d'aujourd'hui sous le rôle de la Cour des comptes dans la répression des fautes de gestion. Une deuxième cérémonie a concerné la remise au chef de l'État, au président des deux chambres du Parlement et au Premier ministre du rapport annuel des activités de la Cour pour les exercices 2020-2021. Le compte-rendu de Jeff Ngoy.
Une double cérémonie d'abord, la rentrée judiciaire avec les discours du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour, puis la remise de son rapport annuel et de ses activités pour les exercices 2020 et 2021 au président de la République, aux deux présidents du Parlement ainsi qu'au premier ministre. Ce rapport, selon le procureur général Salomon Toudieché, rend compte du travail de la Cour. Il met en évidence la gravité des fautes de gestion. Il contient des recommandations proposant certaines corrections. Informe le public de la gestion des finances publiques. Dans le discours de la rentrée, Jimmy Munganga parle de la répression des fautes de gestion comme moyen efficace de lutte contre la corruption en RDC. Ces fautes étant en réalité des actes d'accomplissement de la corruption. En les sanctionnant, argue le premier président de la Cour, celui-ci combattra efficacement la corruption et toutes les antivaleurs qu'elle traîne derrière elle. Il faut que les options soient levées pour permettre à la Cour des comptes de poursuivre les intouchables qui se recrutent parmi les ministres, relève le premier président de la Cour des comptes.
Merci Jeff Ngoy. Justice encore, le barreau du Nord Kivu s'inquiète du sort réservé au bâtonnier honoraire Joseph Sanane qui est actuellement détenu à Goma par les services de renseignement militaire. La corporation affirme que cette arrestation de Joseph Sanane a des liens avec les faits reprochés au député national Edouard Mwangachuchu. Blaise Ndongala Mayanda.
Dans son communiqué, les barreaux du Nord Kivu dit s'inquiéter face à la violation manifeste des droits fondamentaux du bâtonné Joseph Sanane, isolé de manière à ne pas les laisser entrer en contact avec son barreau. Pour le bâtonnier de l'ordre des avocats de Goma, toutes les démarches visant à contacter les responsables du service des renseignements militaires qui les détient ont été refusées. Il dit qu'il y aurait même des démarches d'amener cet avocat à Kinshasa comme renseignant dans les dossiers qui opposent les ministères publics au parlementaire Mwanga Chouchou sans une convocation de la haute cour reçue au niveau du barreau. Pour le bâtonnier de l'ordre, Maître Félicien Timana, le seul acte reconnu qui impliquerait Joseph Sanane, c'est les communiqués que celui-ci avait émis le 28 février dernier en qualité d'avocat conseil du prévenu Edouard Mwanga Chouchou. C'était pour dénoncer le pillage de la société à Rubaya et la suspension des activités dans cette zone qui venait d'être occupée par les rebelles du M23. Un acte fait en qualité d'avocat qui, pour Maître Félicien Timana, ne devrait pas être considéré comme acte répréhensible. Il exige ainsi la libération immédiate et sans condition de Joseph Sanane Chico.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. À un jour de la fin de l'identification et de l'enrôlement des électeurs à Lubumbashi, plusieurs personnes se plaignent actuellement de n'avoir toujours pas reçu leur carte d'électeur. La société civile tire la sonnette d'alarme sur le dysfonctionnement de certains centres d'enrôlement. À Lubumbashi, la correspondance de Jean Ganduka Bongo.
Les centres d'inscription et d'enrôlement ne désemplissent pas. Les requérants se présentent dès les premières heures du matin, espérant avoir les jetons pour y accéder. Malgré ce sacrifice, il y en a qui se retrouvent devant d'autres réalités. Il y en a qui viennent après à l'aide des billets de banque, ne suivent pas la queue et vite, ils sont directement reçus aux grandes dames de ceux qui passent de longues heures d'attente debout sous le soleil. Dans d'autres centres, ce sont les pannes à répétition des machines qui retardent l'opération. Conséquence, certaines personnes se dirigent dans d'autres coins de la province pour se faire enrôler. Beaucoup nous ont indiqué que l'essentiel pour eux, c'est d'avoir la carte d'électeur qui donnera droit à l'obtention de la carte d'identité. Au moment de vote, ils verront s'il faudra se déplacer ou pas. La société civile tire la sonnette d'alarme et indique qu'il y a risque que la CENI enregistre beaucoup d'électeurs et qu'au jour du scrutin, qu'il y ait moins de votants. Bertin Tchos, du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga.
Chacun veut la carte. Il y a une masse de personnes qui quittent vers une autre zone au moment des élections. Je ne pense pas que ces mêmes personnes-là vont aller. Nous risquons d'avoir de personnes qui n'auront pas à atteindre leur seuil maximal qui a été fixé.
Ce qui a fait dire à un autre acteur politique de Lubumbashi que cela pourra impacter négativement sur la cartographie électorale et demande ainsi à la CENI d'en tirer toutes les conséquences au moment venu. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Dans l'actualité, il y a également l'augmentation unilatérale du prix de la course par les conducteurs dans les transports en commun ici à Kinshasa. Les Kinois s'en plaignent quotidiennement. Une personne qui d'habitude payer 2000 francs congolais pour arriver à son lieu de travail avant de retourner à son domicile est obligé de débourser plus de 6000 francs congolais par jour. L'association des chauffeurs du Congo fustige la léthargie des autorités urbaines qui tarde à sortir la nouvelle grille tarifaire. C'est un reportage d'Anne Célestine Mibé et Chris Bandundu Kapalai.
Quitter sa demeure pour arriver à son lieu de travail ou à l'école relève d'un parcours des combattants aujourd'hui à Kinshasa. Les prix de la course en transport en commun varient selon les heures et les humeurs des conducteurs. Une course qui coûtait par exemple 500 francs congolais revient à 1000 francs voire 1500 francs. Le soir et les heures de pointe, les prix passent à 2000 francs ou à 2500 francs. Cette situation pousse de nombreux Kinois à parcourir de longs trajets à pied le matin comme le soir.
C'est l'absence de l'État. Si les chauffeurs prennent leur initiative sans l'autorité gouvernementale,
le conducteur explique cela par le révision à la hausse à plusieurs reprises des prix des carburants à la pompe. De son côté, le vice-président de la SECO dans la capitale justifie cette spéculation par le fait que les autorités urbaines tardent depuis plus d'une année à publier la nouvelle tarification des transports à Kinshasa. Jean Mutombo.
S'il y a augmentation du prix du carburant à la pompe et que le seuil a atteint 10% et que la commission s'est réunie, c'est que nous demandons que la publication de l'arrêté tarifaire soit plus rapide par le fait que les gens doivent s'adapter à ce prix-là. Si ça prend trop de temps, il y a les tarifs illicites qui s'installent dans la ville, il y a tout le monde qui se fait n'importe quoi, qui fixe son prix comme il veut.
En attendant cette nouvelle grille, les calvaires des Kinois qui dépendent du transport en commun continuent.
Actualité internationale.
Deux semaines après son discours dénonçant l'arrivée des hordes de migrants subsahariens clandestins en Tunisie, le président Kais Saied a reçu ce jeudi matin Oumarou Sissoko Embalo, le chef de l'État bissau-guinéen et président en exercice de la CEDEAO. Au menu, les propos qualifiés de racistes et haineux par plusieurs ONG et l'opportunité d'une séance de clarification entre les deux personnalités. La Russie a annoncé aujourd'hui la tenue d'une réunion à Genève, en Suisse, avec l'ONU sur l'accord céréalier avec l'Ukraine qui expire le 18 mars prochain et dont les négociations visant à le prolonger ont été jugées plutôt compliquées par son chef de la diplomatie. Les prochaines consultations à ces sujets sont prévues le 13 mars à Genève et qui connaîtront la participation d'une délégation interministérielle russe et des représentants des Nations Unies venus de New York. Annonce faite aujourd'hui par Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef de bureau de la MONUSCO dans la province de l'Ituri. Marc Carnassoro affirme que la situation humanitaire reste préoccupante, même si le niveau des violences a baissé. Il pense que l'impunité des auteurs des violences est l'une des causes de la poursuite des atrocités dans cette province. Il s'entretient avec Jean-Claude Lokidile.
Marc Carnassoro, bonjour.
Bonjour.
Quel étude faites-vous de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province de l'Ituri actuellement?
Comme vous le savez, en Ituri, depuis la fin de l'année dernière, on a assisté à une recrudescence des actes de violence, notamment dans le territoire de Djougou, une partie du territoire de Mahagui, qui ont été sérieusement affectés par des violences contre les populations civiles, notamment perpétrées par des groupes armés qui se réclament appartenir aux communautés locales. Ces attaques continuent, même si en intensité, elles semblent avoir quelque peu baissé. Aujourd'hui, nous estimons avec les autorités à autour de 700 000 personnes, les personnes déplacées à Djougou. Nous avons plus d'un million, mais 700 000 rien qu'à Djougou, ce qui est très grand comme chiffre. Et donc, on peut conclure que la situation n'est pas du tout stable. De ce point de vue.
Pendant ce temps, il y a un processus de paix qui a été initié par les autorités du pays, je parle du gouvernement national, mais aussi provincial, et dont la MONUSCO est partenaire. Où est-ce que nous en sommes, nous?
De ce point de vue, je voudrais dire que toutes les initiatives qui sont prises, à la base, ne sont pas des initiatives en tant que telles de la MONUSCO. Ce sont des propositions qui émanent des populations et des communautés. Et c'est dans ce sens que nous accompagnons ces communautés pour discuter. Malheureusement, on a encore beaucoup de mauvaise foi. Il y a beaucoup d'engagements qui sont pris et qui ne sont pas respectés.
Par qui ?
Ben, par les responsables des groupes armés, notamment. Et aussi par certains responsables communautaires. De ce point de vue, je voudrais être très clair. Le travail continue de se poursuivre pour la documentation de tous les abus. Et tous ceux qui sont responsables de ces abus en répondront devant les tribunaux. Ils en répondront devant les institutions compétentes. Que ce soit le groupe Codeco, que ce soit le groupe Saïr, que ce soit le groupe MAPI, quel que soit le nom qu'ils se donnent, que ce soit les ADF, ils devront en répondre. Ça, c'est très clair. Et je pense que le gouvernement ne dit pas autre chose.
Marc Carnassoro, pendant ce temps, le constat c'est que les choses avancent très lentement, à pas de tortue. Il y a eu le processus de paix qui a été initié, et la programme PDDC aussi qui traîne les pas. Bref, est-ce que ce n'est pas ces vides-là aussi qui font que justement les choses n'avancent pas sur le terrain? Tout à l'heure, vous avez fait allusion à Djougou, qui a plus de 700 000 personnes déplacées. Qu'est-ce qui bloque finalement?
Encore une fois, un certain nombre d'acteurs continuent de faire preuve de mauvaise foi et de très mauvaise foi parce que il nous semble que on a fait trop la part belle à ces entrepreneurs de la violence. On leur a donné trop d'espace. On a fait trop la part belle à ces entrepreneurs de la violence là qui se sont épanouis sur cette entreprise macabre là qui consiste donc à créer les tensions, à amener les gens à se massacrer. Pendant ce temps, eux, ils sont toujours prêts à participer au Grand Forum, à aller à Kinshasa. Ils sont reçus dans les réunions sur la base de tous ces troubles qui se passent au niveau local. Vous avez entendu Madame la représentante spéciale lors de son passage ici. La MONUSCO continuera de soutenir les tribunaux, continuera de soutenir la lutte contre l'impunité, continuera de soutenir le gouvernement dans son entreprise de s'assurer que la justice traditionnelle est en marche, d'une part, et que d'autre part, ceux qui doivent répondre de leurs actes en répondent.
Puisque vous en parlez, on sait aussi que la MONUSCO a appuyé le dialogue intra ou intercommunautaire. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui laisse beaucoup de temps à ce que ça ne continue, parce que jusque-là, on continue à dialoguer? Bref, parlez un peu de ce dialogue intra et inter, puisque nous en sommes aussi.
La proposition d'encourager ces dialogues émane des communautés. Il est important que les gens continuent à se parler. Quelle que soit la situation, il est important et il est critique que les gens continuent à se parler.
Il y a certaines leaders communautaires qui ne sont pas d'accord avec cette démarche. Et on pense que le gouvernement et la MONUSCO, son partenaire, voudraient bien cacher tout ce qu'il y a eu autour de ce qui se passe depuis, je crois, 5 ans en Ituri.
Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de documentation. Tout ce qui se passe en Ituri est documenté. Toutes les violences sont documentées. Et donc, ce dialogue vise, pour ces communautés-là, à parler justement de ces choses-là, à discuter en interne de ces choses-là.
Marc Canassero, je vous dis merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Marc Canassero, interviewé à Bunia par Jean-Claude Lokidile. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Pelle Kipena Mondo qui m'a accompagné.